franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 9h12. Tout de suite, Interception, le magazine de reportage de la rédaction présenté par Pascal Dervieux.
Bonjour à tous. Qui d'entre nous, en croisant une affreuse barre d'immeubles à la périphérie d'une ville, n'a pas injurié en pensée au moins l'architecte qui en a conçu les plans? Car nous avons tous à l'esprit cette image idéale de l'architecte bienfaiteur de l'humanité qui bâtit des ensembles où il fait bon vivre. Parmi ceux qui répondent le mieux à cette image idéale, il en est un qui aura marqué son siècle, et c'est bien sûr Le Corbusier. Le Corbusier est mort en 1965, mais son œuvre lui a survécu. Et nous suivons ce matin Gwenaëlle Abolivier et Marc Garvenès dans l'une des réalisations de l'architecte. Nous allons à Rezé, en Loire-Atlantique. En 1955, dans cette commune voisine de Nantes, on inaugure l'une des unités d'habitation, c'est le terme utilisé à l'époque, pour qualifier ces bâtiments qui verront le jour ailleurs, à Marseille ou à Berlin par exemple. On baptise celui de Rezé la Maison Radieuse. À son ouverture, la fin de la guerre est encore toute proche. Les conditions de vie des Français restent très précaires, notamment en termes de logement. La Maison Radieuse offre à ses occupants des conditions de confort et de vie sociale tout à fait inédites. Aujourd'hui, que reste-t-il de l'esprit de son créateur chez ceux qui occupent les 300 appartements de cet ensemble? Le Corbu, 60 ans d'une utopie en béton, suivons nos guides.
Interception, le magazine de la rédaction.
Voilà, nous voilà en bas de l'immeuble. C'est vrai que c'est saisissant quand même lorsqu'on est au pied du Corbu. C'est vertigineux.
C'est sûrement ce qui a le plus étonné les Reuséens qui ont vu se construire l'immeuble. Et c'est aussi encore ce qui est le premier choc des visiteurs. Les Reuséens de l'époque habitaient dans du petit pavillonnaire traditionnel. Ils n'imaginaient pas qu'on puisse vivre dans ce colosse de béton là, qu'ils ont vu tout d'un coup se construire et leur faire de l'ombre quelque part. Pour eux, c'était inimaginable. Et très très longtemps, ils n'ont pas osé pousser la porte. Ils se demandaient comment on pouvait vivre là-dedans.
Il l'appréciait comme quels étaient leurs sentiments?
Je pense que non, il ne l'appréciait pas. Non, je pense qu'il y avait un sentiment de rejet. C'était tellement novateur, c'était tellement éloigné de tout ce qu'il connaissait, mais c'était aussi éloigné de tout ce que les Français connaissaient à l'époque. Hein.
Et voilà, on va passer au-dessus de l'étang.
Oui, la passerelle. Qui fait partie des parties classées du bâtiment. Hein. C'est sur cette passerelle que Le Corbusier est photographié le jour de l'inauguration.
Alors en 1955 ?
2 juillet 1955. Il regarde. Et il est face à ce qui, pour lui, était l'entrée principale du bâtiment. Parce que nous étions des piétons pour la plupart d'entre nous. Et donc c'est effectivement par cette passerelle qu'on arrivait. Et on se trouvait face au bas-relief qui résume les intentions de Le Corbusier.
Donc on est côté est.
On est côté est. On est au soleil levant.
Alors là, on entend le son, en fait, du... C'est le jardinier hein, qui s'occupe
du parc. C'est l'entreprise qui entretient effectivement les 6 hectares de parc qui entourent l'immeuble.
Là, on vient de passer sous la girafe, avec l'escalier caractéristique.
Et on arrive en bordure de l'étang.
Martine Vitu préside la Fédération européenne qui regroupe depuis 2004 les associations d'habitants des 5 unités imaginées par Le Corbusier. Enseignante à la retraite, Martine est considérée comme l'un des piliers de la Maison Radieuse. Elle y vit depuis 60 ans, autant dire qu'elle connaît les lieux comme sa poche. Elle participe par la transmission de la mémoire et la connaissance du bâtiment à rassembler cette communauté de 650 personnes. Notre découverte commence au pied de cette barre d'immeubles imposante, à 52 mètres au-dessus de la Loire.
C'est vrai qu'il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat ce matin.
profiter de l'animation du jour du marché.
Oui, ben on passera le jour du marché.
Ça va changer.
Voilà le hall d'entrée.
Le hall d'entrée, qui est le hall d'entrée unique pour les 294 appartements. Il fait partie aussi de la volonté de Le Corbusier de faire se rencontrer les gens, puisque tout le monde passe par ce lieu incontournable qui est un petit peu la place du village. Bonjour.
Ce qui distingue une architecture des autres, c'est qu'elle veut être une architecture du bonheur.
Le monde n'est pas faux. Ce sont les usagers qui l'ont inventé. Ils complètent même cet autre vocable, la ville radieuse. Vocable qui est devenu une espèce de mot d'ordre partout, dans le monde entier.
En fait, il ne s'agit pas tant de théorie que de bon sens. La courbe du soleil, dit-il, doit déterminer la forme de la maison et la disposition des façades. La maison de l'homme d'aujourd'hui lui vole le soleil, la maison de Le Corbusier veut le lui rendre.
Là, on emprunte la rue. C'est vrai que c'est ce nom que Corbu a donné à ses couloirs. Et alors moi, je suis quand même assez saisie par l'ambiance, puisqu'on est dans une ambiance comme ça, une atmosphère très feutrée, de lumière tamisée, où apparaissent les taches de couleurs. Hein. Là, ce sont les portes, des jaunes, des bleus, des rouges, les couleurs primaires du Corbusier. Mais c'est surtout cette lumière tamisée. C'est étrange, hein, ça donne un aspect, comme ça on a l'impression d'être à l'intérieur d'un organisme presque.
C'est effectivement une ambiance qui étonne beaucoup les visiteurs. C'est une volonté de Le Corbusier. Pour Le Corbusier, c'est le début de la promenade architecturale et cette ambiance à la lumière volontairement atténuée marque premièrement que c'est un espace de circulation et pas de stationnement. Comme c'est sombre, les enfants ne jouent pas, on papote pas dans la rue. Et puis, pour Le Corbusier, c'est aussi pour lui la préparation à l'éblouissement lumineux que va être l'entrée dans l'appartement.
Le choc de la lumière.
Le choc de la lumière.
Et là, on a le soleil, justement. Ce soleil
on a
traverse
le soleil, hein,
côté est.
Donc
là
nous sommes du côté est, effectivement. Et donc, la lumière du matin. Et c'est le seul apport de lumière naturelle, effectivement, dans cet espace collectif qui est le palier des ascenseurs et la rue.
Bonjour.
Bonjour.
Madame Hubert habite l'immeuble depuis le début.
Bonjour madame.
Ça fera 55 ans, le 15 août.
Et madame Hubert est arrivée dans la charrette des postiers.
Donc vous n'avez pas bougé de rue finalement,
ah,
vous êtes restée là.
Non, on a acheté, quand ça s'est vendu, on a acheté l'appartement et voilà. Et
vous n'avez pas voulu en partir alors de la maison radieuse?
Ah non, j'y mourrai.
Bon,
je laisse.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Le directeur de la maison familiale, qui est une société coopérative d'achat. Combien de logements comporte cet immeuble?
Il y a très exactement 294.
Et il y a combien de personnes?
Et nous avons dans l'immeuble un peu plus de 1200 personnes au mois de mars 62.
Quel est le loyer d'un appartement?
Alors le loyer d'un appartement de 4 pièces cuisine est actuellement légèrement inférieur, je crois, à 13 000 francs par mois, enfin 13 000 anciens francs par mois.
Les appartements sont faits de trois éléments standards.
Oui, la salle commune avec sa cuisine attenante, la chambre des parents avec la salle d'eau, le groupe de deux chambres d'enfants.
C'est ça, Le Corbusier a tenu à ce que les parents soient séparés des enfants.
Certainement, le plan est tel que les enfants sont chez eux et les parents aussi.
Le Corbusier a aussi étudié l'économie des mouvements.
Cette économie est très réelle, en particulier dans la cuisine, n'est-ce pas, où là, pratiquement, on doit pouvoir faire tous les mouvements sans presque bouger les pieds.
Pour la principale réussite, je crois, c'est l'aspect.
La maison radieuse est sortie de terre en un temps record, au début des Trente Glorieuses. On doit ce projet à 5 personnes, dont André Wojcinski, chef d'atelier de Le Corbusier, Georges Bénezet, mergoliste de Rezé, reconnu comme l'homme providentiel, et Eugène Claudius Petit, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui autorise, sans permis de construire, l'édification de cet immeuble expérimental. Marilyn Monnier, architecte de formation, y vit depuis 1996.
Il faut resituer quand même le contexte de l'époque où la plupart des gens vivaient dans des taudis, hein, des maisons en bois, il n'y avait pas de chauffage, l'eau courante, mais l'eau froide. Il y avait très peu à l'époque de logements qui avaient l'eau chaude, à part des immeubles en ville assez bourgeois, quoi. Les toilettes étaient dans le fond du jardin, évidemment, arrivé ici, les logements avaient chauffage par le sol, double vitrage, ventilation mécanique, toilettes avec les chasses d'eau. Ça, c'était le grand jeu des enfants quand ils arrivaient. Les parents se plaignaient parce que les gosses n'arrêtaient pas de jouer avec les chasses d'eau. Forcément, c'était drôle. La douche à l'italienne. C'était les ascenseurs. C'était l'Amérique, quoi. Il y avait un décalage. Donc, énormément de gens venaient voir ce truc, parce que c'était vraiment un machin qui sortait du sol, c'était une curiosité. Par contre, pour y habiter, c'était quand même, ça se bousculait pas. Et c'est aussi, j'en reviens à cette modernité, c'est-à-dire que les gens qui se sont lancés dans cette aventure au départ, c'était d'une part des jeunes couples, qui avaient envie de modernité, qui avaient envie de se projeter dans l'avenir. Et je ferai un parallèle avec aujourd'hui, où on a de nouveau des jeunes couples qui viennent ici, mais qui veulent habiter ici, parce qu'ils sentent qu'ici, la vie va être différente, qu'on peut faire des choses, qu'on est dans la vraie vie, entre guillemets, c'est-à-dire que leurs enfants vont pouvoir jouer dans le parc, vont pouvoir aller à l'école, pourvu qu'elle dure, sur le toit. Il y a une vraie vie sociale et ils ont envie de vivre cette aventure-là. On est encore là-dedans, toujours, 60 ans après. Quand ils sont allés chercher, parce que bon, il fallait trouver des financements, parce que c'était ça quand même le nerf de la guerre, il fallait pouvoir financer cet immeuble. Et quand ils se sont adressés au Conseil Général, Abel Durand lui aurait dit « Quand on entasse le grain, il pourrit, et vous allez nous faire un nid à communistes ». C'était ça, son discours. Donc, bon, ils n'ont pas insisté, mais tout le monde était réticent.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la Maison Radieuse. Donc, voilà, je me présente, je suis Florian Riffet, l'un des guides en charge des visites ici à la Maison Radieuse. Donc, c'est moi que vous allez suivre cet après-midi pour découvrir le bâtiment. Vous allez tous visiter l'un des appartements de la Maison Radieuse. Il y en a 294 en tout.
La Maison Radieuse est un édifice classé aux monuments historiques qui se visite toute l'année, également par des scolaires.
Les logements, les appartements sont des duplex. Ils vont avoir un étage soit au-dessus de la rue pour les numéros impairs, soit au-dessous de la rue pour les numéros pairs. D'un côté, vous avez les duplex, donc appartements à étage, montants. Vous voyez que le niveau supérieur est bien traversant. On a l'ouverture sur la façade est, l'ouverture sur la façade ouest. Les numéros pairs de l'autre côté, duplex descendant. On va aller voir maintenant ce que ça donne avec un appartement, cette fois. Le numéro 601, qui est tout au bout là-bas. Là, vous avez un logement qui n'a pas changé en 60 ans, je vous le disais. Le salon n'est pas immense, mais dans les années 50, il faut dire aussi que les salons sont peut-être moins encombrés qu'aujourd'hui. Notamment, il n'y a pas de télévision. L'impression que ce n'est pas forcément immense, c'est surtout dû au plafond qui est bas. Et si le plafond n'est pas très haut, il y a une bonne raison à cela. Tout ici est calculé pour s'adapter au corps humain. Le Corbusier, en fait, a créé son propre système de mesure qui s'appelle le modulor. Cet homme que le Corbusier a imaginé, dont on retrouve toutes les proportions, en fait, à l'intérieur de l'appartement. Ce sont des proportions qui se veulent harmonieuses puisqu'elles sont calculées avec le nombre d'or. Et par exemple, lorsque le modulor lève le bras à 2,26 m, on obtient la hauteur du plafond. Le modulor, qui est un homme d'1,83 m, correspond également à la longueur du meuble de la cuisine ou à la largeur d'une chambre d'enfant. Et Comme on a des proportions peut-être un peu inhabituelles, puisqu'il n'y a que chez Le Corbusier qu'on retrouve le modulor, on peut avoir le sentiment ici d'être aussi dans une cabine de bateau. Et c'est pas un hasard, puisque Le Corbusier s'est beaucoup inspiré des bateaux pour aménager les logements. Le but vraiment va être de gagner de la place, d'optimiser l'espace au maximum, avec des idées qui sont pour l'époque très innovantes. La cuisine est ouverte, ça permet bien sûr d'avoir plus d'espace, plus de lumière aussi, et surtout, la famille n'est plus séparée. On peut être dans le salon et mettre la table, grâce au passe-plat qui relie les deux pièces. Mais l'une des choses les plus innovantes ici, c'est l'insonorisation. Quand on est dans son appartement, on doit être tranquille, sans être importuné par le bruit des voisins. Et insonoriser un logement il y a 60 ans, c'est aussi quelque chose de très très rare.
Il y a une chose étonnante aussi, je trouve, dans cet appartement, c'est la lumière qui vient baigner comme ça l'espace, qui donne d'ailleurs une dimension cosmique à l'appartement, nous révélant un petit peu aussi notre place dans l'univers, en fait. Hein.
Oui.
On est dans un appartement, mais en même temps, on est relié au ciel. Et cette fenêtre, elle est ouverte, mais elle est panoramique.
Exactement, c'est un mur vitré, en fait. Donc avec une vue ouverte autant que possible, pour le coup, et avec une lumière qui rentre pleinement à l'intérieur des logements. Donc il n'y a presque plus de coupure en fait, entre l'appartement et l'extérieur. Donc on est chez soi, mais en même temps, on peut être un peu au dehors malgré tout, grâce aux pans de verre. Le Corbusier, en fait, plus que des logements ou une forme architecturale, va proposer un mode de vie dont la forme architecturale, finalement, ne sera que l'expression. On favorise la vie collective et on protège la vie privée.
Tous les mercredis soirs, le hall d'entrée, considéré comme la place du village, se transforme en un marché qui réunit quelques producteurs locaux.
Les choux-fleurs, il n'y a que des gros.
Je voudrais 6 œufs s'il vous plaît.
Merci. Alors vous êtes une habituée, Marie-Vonne?
Oui, tous les mercredis. Oui, en général, ça souffre empêchement important, sinon pas de problème.
C'est vrai que là, les légumes donnent envie.
Ah, les légumes, les fruits, c'est vrai qu'il y a le choix. Hein. Ça suit les saisons, mais bon, on n'a pas hésité pour faire des soupes, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Oui, je vais prendre 1 livre de carottes, s'il vous plaît.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que là, on passe évidemment quotidiennement dans le hall.
Oui.
Et là, ce soir, la place, elle embaume de parfums du jardin.
Ne serait-ce que dans les ascenseurs, parce que quand on prend l'ascenseur le mercredi, on se rend tout de suite compte si le marché est ouvert ou pas. Hein.
C'est sûr que...
Oui, on s'en rend compte. Dès en prenant la 6, on se dit, ça y est, c'est le marché.
Qu'est-ce qu'il y avait comme commerce ici avant?
Il y a eu un bureau de poste et puis une petite maison de la presse avec jouets et cahiers, enfin des choses comme ça, papeterie aussi à une époque. Je vais prendre aussi 1 kilo de pommes de terre des vaches, s'il vous plaît. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y avait la livraison dans les casiers. Hein, à chaque appartement, il y a un casier qui donne sur la rue. Et pendant des années, il y a eu livraison de pain, de volailles et tout. Dans les casiers, c'était... Oui, ça s'est fait, je sais pas, peut-être jusqu'à il y a 20 ans à peu près. Je vais prendre des asperges aussi, 1 livre, s'il vous plaît.
Alors, et vous, Marie-Vonne, vous êtes propriétaire, locataire?
Locataire.
Ah, locataire.
Locataire, oui. Depuis 77.
Alors, ça fera 10,28 €.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Vous faites quelques courses?
Non, pas ce soir. Je fais de l'affichage dans le hall. J'étais en train d'afficher le compte-rendu du dernier CA de l'association des habitants de la Maison Radieuse.
Et puis vous allez monter dans les étages, c'est ça ?
Oui, parce que j'ai des documents à distribuer aux responsables.
Marie Haye habite ici depuis 3 ans. Cette année, cette enseignante est secrétaire adjointe de l'association des habitants de la Maison Radieuse.
Tu as des enveloppes à distribuer à la une ?
0,
moi, je distribue aux responsables de clubs, d'activités. Je leur distribue la liste des contacts importants dans la maison, s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont besoin d'avoir des clés, s'ils ont besoin de faire appel à d'autres responsables pour une activité donnée, s'ils ont besoin de savoir quand est-ce que le 127 est libre pour mener des activités, voilà. Alors, 126, Marcelin, tu le trouves, le 126 ? C'est pour Gaëlle, c'est la responsable du club photo. Voilà, donc là, 131.
Ça, c'est pour
le responsable du club journal. Club muscu. Bonsoir. Je pense qu'il y a une forme de militantisme dans le fait de faire des choses dans la HMR.
Et de vivre ici ?
Oui. L'idée, c'est quand même de faire en sorte que le lieu soit agréable, le plus agréable possible à vivre pour le maximum d'habitants.
Bonne soirée.
Je descends avec toi.
À tout à l'heure, Yannick.
On dit qu'à la Maison Radieuse, on n'achète pas seulement un appartement, mais également ses voisins et la vie collective. Ce qui fait de ce lieu un véritable laboratoire du vivre ensemble. À l'atelier couture se préparent les festivités du 60e anniversaire.
Alors, l'objectif, c'est donc de faire quelque chose pour le bal du 60e. Hein, robe ou pas, hein, parce que robe ou jupe. J'ai descendu ma robe que je me suis faite, voilà, qui est là. Alors, ça, c'est un modèle comme ça, c'est pas facile.
Oh, hein, c'est beau.
Alors, je suis Gaëlig, j'habite au 126 et voilà, j'habite au Corbusier depuis 5 ans. Ouais, 5 ans, c'est ça. Et voilà, je vis seule avec mes deux enfants. Quelle envie de faire des choses ensemble et puis ça va dans le sens de la convivialité qu'il y a déjà au quotidien ici en fait. Pourtant, je suis pas du tout béton, je suis pas du tout citadine. Je suis plutôt, je venais de Bretagne, dans un petit village, sur la côte. Et puis, quand j'ai vu l'ambiance qui régnait ici, ben voilà, je m'étais charmée assez rapidement. Et puis, ouais, l'esprit de village aussi, je dirais la solidarité quand on a un petit besoin, quand on a, on veut échanger. Il y a toujours la possibilité, voilà, de... que ce soit au parc, au jardin, il y a du monde autour, même si on peut être vraiment, on a une tranquillité chez soi parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis. On se sent pas seul, c'est vrai, effectivement.
Je m'appelle Anne Scottet, je suis présidente de l'association des habitants de la Maison Radieuse depuis environ un peu plus d'un an.
Alors c'est vrai que l'association des habitants de la Maison Radieuse, elle a une importance, en fait elle a aussi son historique ici.
Elle a démarré le 25 avril 1955. Les premiers habitants sont arrivés le 16 mars. Au départ, il y avait une grande implication des gens du fait de du principe d'habitation, puisque c'était une coopérative. Les gens avaient donné 15% du prix de l'appartement pour emménager. Donc, ils étaient intéressés par le fonctionnement de la maison.
Aujourd'hui, cette association, en fait, l'association, la HMR, c'est comme ça qu'on dit, en quoi elle est importante ici à la Maison Radieuse ?
Ah ben elle est importante parce qu'elle permet de maintenir le lien et de maintenir le brassage social. Là, dans l'association, on côtoie forcément toute la palette de gens. C'est l'association qui maintient ce lien entre les différents types de gens qui habitent ici. Pour certaines choses, par exemple, l'école est menacée. Eh ben, ça a démarré au quart de tour, l'esprit militant, là, pour la défendre. Blog, site, et réunions et tout. Voilà, il y a un terreau qui démarre vite. Il y a eu aussi une mobilisation il y a quelques années pour une famille qui était menacée d'expulsion, et des gens se sont mobilisés très vite autour de ça. Voilà.
Petit jardin du Corbusier, sont jolis, 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 jolis. Il y a des fleurs, des pissenlits, de la menthe, des fraises et des radis. Les petits jardins du Corbusier sont jolis, 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 jolis. Au soleil tous les après-midi, le matin. Ciel est gris, les petits jardins du Corbusier. En bas sont un peu le paradis.
Alors 444, tiens, j'ai un doute. J'ai un doute. Bonjour,
bonjour.
Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Nous cherchons Anne Bruno.
444.
Oui. Alors, tout au bout à droite.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir. C'est bien par là. La porte rouge 440. Ah oui, on se rapproche. 442, la porte verte. Et Annick, en fait, est au 444, porte blanche. Bonjour.
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 Entrez.
Merci.
Vous écoutez la radio ? Qu'est-ce que vous écoutez ?
Oh, ça m'arrive, oui.
Qu'est-ce que vous écoutiez ?
Oh, c'est France Inter.
Donc,
Bon, tu vous fais un café d'abord.
C'est gentil. J'aime beaucoup, moi, cette vue de la quatrième.
Ah, moi, vraiment, j'y tiens énormément.
Dans le prolongement du regard, le pont de Cheviré, cette courbe comme ça dans l'espace.
Et puis de la nature.
Avec cette Loire, c'est ça qui est magnifique. Moi, j'aime beaucoup cette vue parce que on a le port, finalement. On toucherait presque ça.
Et autrefois, vous voyez les bateaux remonter la Loire. Maintenant, il n'y a plus.
C'est vrai ?
Ben oui.
Alors, depuis combien de temps vous vivez ici, Annick ? Au 444 ?
Depuis 68.
68 ?
Mmh. 47 ans, oui. Et j'ai pas envie de partir. 68, c'est pas une année banale. Les gens qui sont venus ici, il y avait quand même une proportion de militants assez importante, militants syndicaux, etc., voire militants politiques. Par exemple, les militants qui ont déclenché le mouvement de grève à l'origine du problème de mai 68, habitait ici. C'était mes voisins.
Ah oui, d'accord.
Bon, la vie collective ici a toujours été très, très intéressante. C'est encore vivant, différent, mais c'est encore vivant. J'ai deux voisines récentes, par exemple Véronique en face, et il y a un peu plus d'un an qu'elle est là, oui. Je lui ai proposé faire un pot du premier de l'an dans la rue. Oh, elle a sauté sur l'occasion, c'est elle qui a mis les invitations sous les portes, tout, et on a fait notre pot du premier de l'an.
C'est un peu l'héritage de l'esprit militant du départ, vous pensez ça ?
Je pense que le statut coopératif a quand même été très important et qu'il a laissé des traces au niveau de la gestion. C'est-à-dire que les gens sont concernés par le bâtiment. On n'a pas trop de mal à avoir des gens qui se présentent pour prendre une responsabilité. On n'a pas trop de mal.
La maison radieuse appartenait à chacun d'entre vous, la maison et le parc.
Ah ben, le fait que l'emprunt était sur 65 ans faisait que, c'était bien lointain et que la propriété individuelle, c'était pas une notion constamment présente. Par contre, la propriété collective et la défense collective, oui, et puis la loi Chalandon est venue et a supprimé la location coopérative.
C'est totalement. Un choc, ça, non ?
Oui, c'était un tel choc que 40% des habitants sont partis. Ça a été une situation assez dure, très dure même, pour les gestionnaires, hein. Et bon, il a fallu quand même plusieurs années pour redresser la situation.
Bon, mais écoutez, on ne va pas vous embêter plus. On va aller voir Dominique.
Oh, Badier, mon voisin. Alors, lui, c'est un prolo. Et c'est un garçon serviable au possible.
Thank you.
messieurs, dames, bonjour.
Ça va?
Bonjour Dominique.
Ça va? J'ai vu Marcel ce matin au jardin. Marcel Janvier, notre poète, notre barde des Corbusiers. Ouais, il fait des super chansons, il fait des trucs. Tiens, ce sont super ces chansons. Et lui, c'est un bon militant aussi. C'est un vieux de la vieille, quoi. C'est un prolo comme moi, quoi. Parce qu'on est, on est plus beaucoup. La population a un peu changé par rapport à ce qu'il y avait avant, quoi. C'est différent. C'est plus tout à fait le même type de personnes. Le monde ouvrier maintenant est atomisé, quoi. Il y a beaucoup de gens, les trois quarts des gens sont précaires, ils sont partis un peu partout. On retrouve plus l'ambiance. Enfin, moi, je retrouve plus l'ambiance qu'il y avait autrefois, quoi. Je suis arrivé ici en 1977, en septembre 77. Je travaillais au chantier naval là, du Bugeon, chantier naval. On construisait des bateaux, des cars ferrés. On travaillait sur des transports de produits chimiques, enfin, un peu de tout, quoi. Ben, j'étais soudeur au départ, après j'étais charpentier fer, et puis je bossais avec un matelot, là, comme j'étais monteur bord. Et puis il m'a dit, tiens, ben, je connais j'habite au Corbusier, mais ça ne t'intéresse pas de venir là et tout. Corbusier, moi, je le voyais depuis la cale, un grand bâtiment noir et tout. Et qu'est-ce que c'est que ce machin-là et tout. Et puis les gars, ils me disaient, bon, on ne va pas habiter là-dedans, c'est la maison du Fadar. Enfin, ils blaguaient, parce qu'il y en avait qui avaient habité là, puis qui étaient très contents au niveau de la sonorisation, enfin, à tous ces niveaux-là. Bon, moi, j'ai fait ma demande. Hein. Et puis, ben, je suis rentré en septembre 77. Puis il y avait avec le copain qui bossait là, déjà, bon, il y avait quand même cette ambiance, ce milieu ouvrier, enfin tout ça, c'était... Il y avait pas mal de militantisme ici, il y a toujours, hein, mais c'est un militantisme différent. Donc, il y avait du trotskiste, il y a de l'anarchiste, il y a un peu de communiste, il y avait un peu de tout. Alors, c'était un nid, quoi, un nid où il y a pas mal de militants, mais ça, chacun était dans son petit groupe, puis des fois on s'engueulait entre nous, quoi, c'est normal, hein, c'est le jeu du militantisme. Maintenant, il y a trois entités, quoi, il y a les locataires d'Atlantique Habitation, et il y a les propriétaires comme nous, quoi, et il y a les locataires de propriétaires. Donc moi, quand il y a des réunions de copropriété, souvent au conseil syndical, j'essaye de rappeler dans l'esprit que c'est une unité d'habitation, quoi, que ce soit le locataire, propriétaire ou locataire propriétaire, on est tous, voilà.
Logés
à la même enseigne, quoi.
Mais est-ce qu'on est vraiment logés à la même enseigne ici ?
Non, parce qu'un locataire de propriétaire, ici, il va louer son appartement beaucoup plus cher qu'un locataire d'HLM, d'Atlantique Habitation, parce que le propriétaire, il va faire des profits, il achète ça, c'est pas un philanthrope, hein, il achète ça pour faire de l'argent.
En fait, ce qui vous a plu aussi au départ, c'était l'esprit militant, c'est ça ?
Oui, dans un sens, on se sentait bien quand on se sentait dans notre milieu, quoi, parce que c'était facile de contacter les gens, il y avait quand même une émulation, quoi, puis il y avait cet esprit-là, quoi. D'ailleurs, c'est là que ça m'interroge un petit peu en ce moment. Enfin, je suis un peu perdu, là, je suis en train de me mettre un petit peu en retrait par rapport à ça, quoi. Je me sens un peu isolé, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'égo, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup d'intello, des trucs comme ça. Donc, si on parle, nous, notre parole, elle est pas du tout... c'est pas pris en compte, mais on passe un peu pour des guignols, quoi.
Il y a un peu de délinquance, ici ?
Non, maintenant, c'est calmé. C'est par période, mais... Il y a une copine, bon, qui se voyait sa route bagnole, elle est dans la merde jusqu'au cou, quoi. Ou de notre autoradio, des gens qui chialent et tout, mais...
Ça s'est passé là, sur le parking ici ?
Moi, oui, ça se passe bon, ça, plusieurs fois, des voitures qui crament ou des trucs comme ça.
Ah, il y a des voitures ?
Bah, oui.
Il y a des voitures qui brûlent aussi
de temps en temps, oui.
Bah,
c'est comme partout. Une fois, il y en a eu 3 ou 4, là. Il y a des séries, nos cabanes de jardin ont brûlé, quoi. Les premières cabanes qu'on avait montées, il y a eu le feu dedans, il y a eu une bande de jeunes, ça, bon, bah, les machins, ils ont foutu feu, ils ont arrivé à les retrouver. Mais quand t'arrives dans le jardin, que t'as monté les cabanes, c'est nous, enfin les copains et tout, qu'on avait monté les cabanes, quoi. Bah, moi j'ai chialé, mais j'ai dit c'est pas possible, putain, de casser le cul à faire quelque chose pour le bien commun, quoi. Et puis ben t'arrives là, tu vois un tas de sang, ça fait mal au cœur, quoi. C'est des coups qui sont quand même, c'est dur à avaler, quoi.
C'est pas mieux qu'ailleurs, ça. Finalement.
Bah si, c'est quand même mieux qu'ailleurs, parce que on rencontre des gens, rien que la conception du bâtiment, les gens disent bonjour dans l'ascenseur, ou dans les immeubles, là, les gens ils se parlent pas, ils se... Voilà, c'est... Si, il y a quand même une atmosphère différente, quoi.
Bonjour.
Tous les samedis matins, les Corbuséens se croisent au Compost et au Tritou, lieu d'échange et de brassage par excellence.
Alors du coup, le samedi matin, à la Maison Radieuse, à partir de 11h, le compost collectif est ouvert, donc les habitants peuvent venir déposer leurs déchets. C'est un compost qui fonctionne notamment pour la fertilisation des jardins, et puis c'est aussi un espace ou un lieu de rencontre, en tout cas, puisque juste à côté du compost, on a le Tritou, qui est un espace d'échange et qui est ouvert aussi pendant 2 heures. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour. Donc chacun vide finalement son compost, ses poubelles, ses déchets.
Oui, tout à fait. Ce compost, il est régulièrement vidé, mis en réserve là, et les gens qui ont besoin pour leur jardin, puisqu'il y a des petits jardins familiaux à 300 mètres, là, et ben ils s'en servent.
Allez, en plus de ça, on va se protéger un petit peu de la pluie. Car là, c'est je ne sais pas si c'est le vent d'ouest qui nous amène ces nuages gorgés d'eau. Entrons au Tritou. Donc on arrive au Tritou.
C'est vrai que c'est le lieu symbolique de la vie collective à la Maison Radieuse de Tritou. Il y a plein de gens qui aiment s'y retrouver. Alors pourquoi ? Parce que c'est le samedi matin, souvent on est disponible pour y aller. Et puis aussi parce que dans cet endroit-là, on peut boire un café, on peut s'installer dans les canapés, on peut discuter, on peut apporter les affaires dont on n'a plus besoin, on peut aussi en récupérer d'autres.
En fait, on peut tout faire ici.
Ça veut dire que bon, les habitants adhèrent au projet.
Voilà, au système, de se dire, on va faire vraiment un acte citoyen, c'est-à-dire on va, nous, au départ, parce que c'est comme ça que ça se passe, au départ, on va prendre nos déchets, on va vraiment les trier. Alors, les déchets végétaux, là, tous ceux qui peuvent aller au compost. Bon, c'est un lieu intergénérationnel réel. C'est-à-dire que les anciens, s'ils ont une problématique, ils peuvent venir en discuter ici. C'est ça, s'il y aura du relais, voilà, ça fonctionne comme ça. Et puis, ils viennent aussi pour le plaisir, raconter des petites histoires sur le corbu qu'on ne connaît pas, nous, les trucs d'avant et tout. Mais ça, on le faisait déjà avant. Nous. Ah bon, bah d'accord. On n'a rien inventé, d'accord. Bon,
est-ce que vous amenez
un déménagement de la belle-mère de ma fille, plutôt que de jeter, bon, on fait suivre de la vaisselle.
C'est plutôt de la vaisselle. Voilà.
Ah, tu m'as amené des bouteilles vides, c'est ça ?
Asseyez-vous.
Mon Jojo.
Je m'appelle Chloé, j'ai 31 ans et on vit à la Maison Radieuse avec mon ami depuis un peu plus de 2 ans. On a acheté le 1er février 2012 sur un coup de cœur. Moi je suis architecte et je connaissais le Corbu comme tous les archis. Et en fait l'été d'avant on est allé à Brasilia et je pense que ça participait aussi au coup de foudre qu'on a eu pour cet immeuble. Voilà. Ce qui est beau, c'est qu'à Rosé, il y a 55% toujours de logement social. Et quand on a acheté, il y a plein de gens qui ne comprenaient pas pourquoi on voulait acheter dans un appartement, dans un immeuble où il y avait du HLM. Et nous, on trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a réellement une mixité sociale qui a finalement aujourd'hui pas forcément dans beaucoup d'endroits. Et je pense que la Maison Radieuse de Rosé, pour ça, elle a réussi.
C'est vrai que vous êtes attaché à la mixité sociale, oui. Vous êtes architecte, et on se rend compte que c'est la population surreprésentée ici. C'est quand même étrange, non ?
Oui, bah, c'est le phénomène bobo.
Ah !
On est, je pense que mon ami et moi, on est réellement des bobos, il ne faut pas s'en cacher, à un moment, il faut l'assumer. Après, les architectes, oui, sont représentés beaucoup. Je pense qu'il y a aussi pas mal de gens de profession artistique ou en tout cas des créatifs, parce que c'est séduisant de vivre autrement. Il y a beaucoup de jeunes, typiquement des gens qui ont notre âge, qui veulent acheter ici, quoi. Parce que c'est pas cher. On est tout près de Nantes, qu'offre une qualité de vie assez géniale, donc oui, ça se boboïse, ouais. Après, oui, c'est dommage, effectivement, qu'il y ait des gens de plus en plus nantis qui s'installent, mais voilà, si ça permet en même temps à des jeunes couples d'accéder à la propriété, c'est aussi peut-être une bonne solution.
Donc là, ça va être l'heure de monter.
Ça va être l'heure de monter. Il est 8h. L'ascenseur dans 8h15. 8h15, ce sont les premiers qui arrivent. Après, l'école ouvre 8h25.
à l'école maternelle. Là-haut, dans les nuages, les cris du Père Noël, l'école, le village.
Sur le toit terrasse, dominé par une cheminée qui donne au bâtiment des allures de paquebot, se situe la plus haute école de France, à 52 mètres. Imaginée par le compositeur Yanis Xenakis, elle offre le dernier service public encore actif au Corbu. Celle-ci est régulièrement menacée de fermeture. En cause, des effectifs en baisse. Depuis 2 ans, un collectif de soutien s'est mis en place. Il propose d'ouvrir l'établissement aux enfants des secteurs voisins. Un moyen de défendre l'exception culturelle de l'école. Sylvie Riam, la directrice, nous accueille.
Merci Satya. Allez. Oh, c'est triste en plus. Au revoir, bonne journée à vous. Voilà, ça y est, vous voyez à peu près, hein, 8h45, c'est à peu près l'heure tous les jours. Voilà, donc notre école, une classe de petite moyenne section, une classe de moyenne grande section. Hein, nos 40 élèves se répartissent sur 2 classes.
C'est une école maternelle.
Une école exclusivement, école maternelle, cycle 1. Bon, il faut arriver ici avec un ascenseur.
Jean-Bénédicte.
Voilà. Alors, voilà notre petite classe de petits moyens.
Hein,
8 petites sections, 3 pré-petits, 9 moyens. Et tout ce petit monde évolue ensemble. Voilà.
Le Corbusier, il est très beau, il est très grand et très beau. Et toutes les couleurs.
Alors, ces enfants grandissent ici, dans la maison radieuse? Ce sont des enfants qui vivent ici, dans la maison radieuse?
Majoritairement, oui. La population, je dirais que sur l'école, les 95% de la population vient de la maison radieuse. Mais le périmètre scolaire, puisque nous dépendons d'un périmètre scolaire, est élargi à quelques petites rues autour de la cité. Une grosse famille. Ils quittent l'école, ils reprennent l'ascenseur, ils se retrouvent entre eux, ils jouent dans le parc ensemble, puisqu'il y a un grand parc où ils se retrouvent au beau temps.
Alors on nous dit que la maison radieuse, c'est un laboratoire de mixité sociale, il y a quelque chose ici un peu d'utopique. Est-ce que vous le ressentez?
Oui, parce que le principal bailleur, qui est donc Atlantique Habitation, réserve des logements pour prioritairement, des gens qui, socialement, ont besoin de logements d'urgence. Il y a aussi quelques logements réservés pour l'association de Cadatrajet qui encadre des familles en droit d'asile. Voilà, donc toute cette population se retrouve à vivre et venir à l'école ensemble. Donc oui, bien sûr, c'est un plus. La mixité se joue. La population échange. D'ailleurs, on fait tout pour que les parents rentrent dans l'école et se retrouvent à partager des projets communs, comme la fresque que nous réalisons en ce moment avec une plasticienne de la ville de Rezé, où on a ouvert des ateliers de parents le mercredi matin, et tous les parents, et c'était intéressant pour les familles justement de toute catégorie sociale, de pouvoir se rencontrer et de travailler sur ce même projet.
Oui. Vous, quel ressenti vous avez, puisque vous êtes là depuis 8 ans? Est-ce que vous trouvez finalement qu'elle fonctionne bien, cette maison radieuse?
Je pense que il y a cette volonté. Maintenant, je pense qu'il y a quand même, parce que les parents m'en ont parlé, certains parents, il y a quand même des clans. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a des familles qui se retrouvent par affinité, parce qu'ils sont impliqués dans cette volonté associative. Et puis, il y a une population qui n'a pas du tout envie de se mélanger. Peut-être des gens qui sont pas très à l'aise dans cette organisation qui est des fois un peu réservée à une population un peu bobo peut-être, oui.
Vous êtes à quelle porte?
400.
Porte ouverte. Porte pomme.
Voilà, merci.
Vous pouvez vous présenter, Marilyn?
Je m'appelle Marilyn Monnier. Je suis arrivée ici en 96, hein, complètement par hasard. Et tout de suite, je me suis sentie hyper bien dans cette maison. Et en fait, quand je regarde ma vie, là, aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment ça, j'en suis persuadée. De toute façon, je pense qu'il y a des lieux où on doit être. Et je pense que moi, je devais passer absolument par là, parce que j'ai ma vie avant et ma vie après, quoi. Je me suis découverte et je constate qu'il y a beaucoup de gens qui se révèlent dans cet immeuble-là. Déjà, il y a du lien social qui se fait grâce à la conception.
En quoi c'est si magique de vivre ici ?
Par exemple, ici, donc, nous sommes dans la pièce de vie. Alors, la pièce de vie, c'est une pièce dans laquelle, comme son nom l'indique, nous vivons. Donc, moi, la transformation que j'ai faite ici, c'est que j'ai bouché le puits de lumière. Là. Normalement, on a ici, au-dessus de l'escalier, là, c'est ouvert, on a deux niveaux, c'est très joli.
D'accord.
Voilà.
Mais alors, est-ce que vous avez fait d'autres transformations ?
En haut, oui, beaucoup.
Ah, on vous suit alors ?
Ouais, d'accord. Je suis encore en transformation. On est, bon, vous le savez, l'immeuble est orienté parfaitement nord-sud, donc ce qui veut dire que la chambre, là, le matin, on a le lever du soleil. Dans la cuisine, on a le lever du soleil, c'est magique. On a tous des milliers de photos de ciel, parce qu'on n'arrête pas de faire des photos tellement c'est beau. Et puis, de l'autre côté, on a le coucher du soleil.
Avec le pont de Chevirée, là,
le
puis la Loire.
Avec le pont de Chevirée, la Loire. Bah, à l'autre côté aussi, on a la Loire. Hein. La Loire, c'est mon repère. Mmh. J'aime beaucoup être là et puis qu'il n'y ait pas de mur, quoi. Ce soit ouvert, qu'on respire. C'est un peu comme si on est dans un phare. J'adore être là, quoi. Je ne pourrais pas habiter ailleurs à cause de ça. C'est impossible de retrouver ça ailleurs. C'est impossible. Je mourrai là. Je pense. Je l'aime, mon appartement. Ouais, c'est vrai que je me sens bien ici. Je me sens très très bien.
Le Corbu, 60 ans d'une utopie en béton. C'était un reportage de Gwenaëlle Abolivier. Prise de son Marc Garvenès, mixage Bernard Laniel. Anne Lureau a réalisé cette émission avec le concours de Stéphane Combe et Zora Ben Smiley. Je vous souhaite un excellent dimanche.